transfert via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons de la Guinée. Après cette surprenante décision des autorités qui ont donc décidé de suspendre pour 3 mois 28 partis politiques, dont le RPG du président déchu Alpha Condé et l'UFR de Sidya Touré, la junte leur reproche de ne pas avoir fourni un compte bancaire ou d'avoir tenu un congrès au cours des 3 derniers mois. L'UFDG de Sélou d'Alain Diallo peut en revanche continuer ses activités, mais à condition d'organiser un congrès dans les 45 jours. 27 formations ont, quant à elles, était dissoute pour non-conformité avec la loi. Alors que vous inspire cette décision, d'autant que 2025 est censé être une année électorale en Guinée? On en parle, on en débat ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70 et vos commentaires évidemment, comme tous les matins sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Des questions pour commencer sur le Tchad et la visite ce week-end de Marine Le Pen. Bonjour Chinka.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de l'émission d'Appel sur l'actualité.
Et merci à vous de nous écouter via les réseaux sociaux à Niamey, au Niger. Quelles sont vos questions, Chinka?
Oui, 8 ans après sa première visite au Tchad, Marine Le Pen a rencontré ce week-end Mohamed Idriss Déby. Alors Juan, j'aimerais comprendre quelles sont les raisons de cette deuxième visite. Et quel intérêt le président tchadien trouve-t-il à se rapprocher de l'extrême droite française?
Oui, 8 ans après sa première visite, la chef des députés du Rassemblement national a eu droit à un accueil en grande pompe avec un programme chargé. Passage à l'Assemblée nationale et au Sénat à N'Djamena, mais aussi, vous le disiez, Chinka, rencontre avec le président Mahamat Idriss Déby à Amdjaras, dans le nord-est du Tchad. Bonjour Nadia Ben Bafoud.
Bonjour Juan, bonjour Chinka.
Merci d'être avec nous, vous êtes la correspondante de RFI à N'Djamena. Quelles sont donc les raisons de cette deuxième visite de Marine Le Pen?
Alors Marine Le Pen est venue dans le cadre d'une visite parlementaire en tant que députée et chef de file du groupe parlementaire Le Rassemblement National. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été accueillie vendredi soir, entre autres par le secrétaire général du MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, qui est le parti au pouvoir ici au Tchad. Et c'est pour cela aussi que l'Assemblée nationale tchadienne lui a ouvert ses portes dimanche en présence de son président Ali Kolutou Chaimi. Mais vous le disiez, Juan, elle a aussi rencontré Mahamat Idriss Déby à Amdjaras, le fief de la famille Déby, où le chef de l'État tchadien passe une partie du Ramadan. Cette rencontre, qui a duré environ 1 heure dans la propriété privée du président, s'est faite dans le cadre d'une visite de courtoisie cette fois.
Oui, on a donc là le cadre de la visite, mais Marine Le Pen s'est-elle tout de même expliquée? Est-ce qu'elle a justifié ce déplacement?
Je suis venue écouter le Tchad. Ce sont les mots et les propos tenus par Marine Le Pen dimanche à l'Assemblée nationale. Elle est convaincue que le développement des relations interparlementaires peut retisser des liens actuellement en froid entre les deux pays, notamment suite à la rupture par le Tchad des accords de coopération militaire avec la France. C'était en novembre dernier et depuis, les militaires français ont rétrocédé les 3 bases militaires françaises qui étaient présentes sur le sol tchadien depuis plus de 60 ans. Et même si des voix officielles tchadiennes expliquent qu'il ne s'agit pas d'une rupture totale de la coopération entre les deux pays, Marine Le Pen, elle, a estimé qu'elle était en quelque sorte venue pour recoller les morceaux entre 2 amis de longue date, la France et le Tchad.
Oui, Chinka nous demande quel intérêt le président tchadien a-t-il à se rapprocher de l'extrême droite française?
Alors, selon l'analyse de chercheurs tchadiens, Mahamat Idriss Déby montre qu'il est courtisé par des opposants de premier rang en France. Faut-il rappeler que Marine Le Pen n'est pas une simple députée. Elle est aussi arrivée 2 fois au second tour de la présidentielle, en 2017 et en 2022. Et cette visite permet donc à Mahamat Idriss Déby d'envoyer un message à Emmanuel Macron pour lui dire qu'il parle à plus de gens en France qu'il ne l'imagine. En tout cas, c'est ce que m'a confié un chercheur tchadien.
Et du côté de l'opposition tchadienne, comment a-t-on réagi à la visite de Marine Le Pen?
Eh bien, prenons l'exemple de Max Kemkoy. Il est le président du groupe GCAP, un regroupement politique d'opposition. Eh bien, Max Kemkoy s'interroge sur le faste protocolaire auquel a eu droit Marine Le Pen, qu'il juge inédit et incongru. Pour lui, le parti au pouvoir, le MPS, se réclame certes nationaliste, mais il est aussi sociodémocrate et ne devrait donc rien avoir en commun avec le RN, qui est d'extrême droite. Selon les mots de Max Kemkoy, entre les Hitnaux et les Le Pen, la relation serait essentiellement mercantiliste et financière.
Fin de citation. Chinka, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci, 5 sur 5, et bonne journée, monsieur Wan.
Merci de vos encouragements, bonne journée à Niamey, un grand merci à Nadia Benmafoud, correspondante de RFI à N'Djamena, et les explications de Nadia sont évidemment à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Vous nous suivez à la radio, mais aussi en images, en direct, sur la chaîne YouTube. Il est 9h17 ici à Paris, on repasse au standard avec des questions sur le bras de fer entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. On vous en parle déjà depuis plusieurs semaines sur l'antenne de RFI avec un dernier rebondissement, c'était vendredi. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auteurs de la radio Mandela.
Et merci de nous écouter à Bomé Calavi, au Bénin. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Voilà, Juan, j'ai deux questions.
Oui.
Ma première question est à deux volets. J'ai appris sur le site de RFI que l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis a été expulsé. Que lui reprochent les autorités américaines ? Et comment réagit l'Afrique du Sud ?
Oui, l'ambassadeur sud-africain persona non grata. Les États-Unis lui ont donné 72 heures pour qu'il quitte le territoire américain. Bonjour Valentin Hugues.
Bonjour Juan, bonjour Rodolphe.
Correspondant de RFI à Johannesburg, c'est par une publication publiée sur X, sur les réseaux sociaux, que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a donc annoncé l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain. Que lui reprochent les autorités américaines ?
Alors on lui reproche d'avoir tenu des propos offensants. Ebrahim Rassoul était invité à une conférence en ligne sur les conséquences de la nouvelle administration Trump pour le continent et pour l'Afrique du Sud. Et c'est lors de cette conférence qu'à un moment il parle d'une politique américaine suprémaciste. Pour les États-Unis, c'est une offense envers son pays hôte et envers le président américain. Il n'est donc plus le bienvenu et doit quitter le pays. A priori, il sera de retour ici dans les jours à venir.
Oui, les propos de l'ambassadeur interviennent, faut le rappeler, Valentin Hugues, dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays.
Oui, Juan, et c'est effectivement important de rappeler ce contexte. Ici, une récente loi sur l'expropriation a été votée, censée réparer les inégalités terriennes héritées de l'apartheid, avec une minorité blanche qui détient encore la majorité des terres. Une loi qui permet l'expropriation sans compensation, mais dans des cas très précis, pour les immeubles du centre de Johannesburg contrôlés par les gangs, ou quand les terrains sont abandonnés, par exemple. Sauf que pour Donald Trump, qui instrumentalise cette loi, c'est tout simplement une attaque envers la minorité blanche. Résultat, il a coupé toutes les aides à l'Afrique du Sud et avait même été jusqu'à proposer aux fermiers blancs le statut de réfugié. Donc quand Ebrahim Rassoul parle d'une politique américaine suprémaciste, il a aussi en tête ces multiples attaques de Donald Trump envers l'Afrique du Sud.
Et quelle a été la réaction des autorités sud-africaines après donc l'annonce, l'expulsion de l'ambassadeur ?
L'Afrique du Sud prend acte de la décision et cherche surtout à remplacer l'ambassadeur le plus rapidement possible. Parce qu'on le disait, les relations se dégradent et l'Afrique du Sud veut à tout prix rétablir une bonne entente. La réponse sud-africaine, c'est vraiment la diplomatie, le dialogue, temporiser, ne pas aggraver les choses, trouver un remplaçant, je cite, très compétent pour travailler dans un contexte tendu, mais aussi pour avoir assez d'autorité à faire entendre la position sud-africaine, notamment sur cette question de l'expropriation. Finalement, le nouvel ambassadeur devra prouver que cette loi ne permet pas les expropriations et que l'Afrique du Sud ne s'en prend pas aux fermiers blancs.
Ouais, l'Afrique du Sud prend donc acte de cette décision. Elle regrette tout de même que la diplomatie se fasse désormais sur les réseaux sociaux depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche.
Oui, parce que l'Afrique du Sud apprend cette décision sur le réseau social X par un poste, vous l'avez rappelé, du secrétaire d'État américain Marco Rubio. C'est quand même pas banal, surtout qu'Ebrahim Rassoul avait déjà été ambassadeur aux États-Unis de 2010 à 2015 et connaît très bien le pays. Alors sur X, le ministère des Affaires étrangères sud-africain répond « Nous communiquerons avec vous par la voie diplomatique ». Sous-entendu, pas en ligne, mais par des canaux plus officiels et plus classiques. C'est aussi ce que répond la présidence. En fait, c'est cette diplomatie sur Internet, cette diplomatie publique exposée à tous qui passe mal ici en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'un pays apprend l'expulsion d'un de ses ambassadeurs par réseau social interposé. Donc la priorité, c'est vraiment de rétablir une diplomatie plus traditionnelle.
Allez, Rodolphe, vous avez une dernière question.
Oui, Juan. L'Afrique du Sud pourrait-elle de son côté également expulser l'ambassadeur américain face à cette situation diplomatique tendue ?
La liaison s'est considérablement dégradée, Rodolphe. L'Afrique du Sud peut-elle également expulser de son côté l'ambassadeur américain, si j'ai bien compris votre question ? Valentin et Hugues, visiblement, on ne se dirige pas vers ce scénario à vous entendre.
Non, alors d'abord, il n'y a pas vraiment d'ambassadeur américain en Afrique du Sud. Depuis le changement d'administration, on attend encore une nomination. La diplomate qui assurait l'intérim a d'ailleurs récemment démissionné à cause de toutes ces tensions. Et puis de toute façon, effectivement, comme on le rappelait, l'Afrique du Sud tente d'apaiser les choses parce que les deux pays sont d'importants partenaires commerciaux. Donc se lancer dans une sorte de guerre diplomatique à coup de renvoi de diplomates n'est pas du tout à l'ordre du jour ici en Afrique du Sud.
À suivre donc. Rodolphe, a-t-on répondu à vos questions ? 5 sur 5, en tout cas la liaison téléphonique n'était pas 5 sur 5, mais vous n'y êtes pour rien. Rodolphe, bonne journée à Bomekalovi, à très vite. Valentin Hugues, correspondant de RFI à Johannesburg. On reste au Bénin, Lionel nous appelle de Cotonou. Bonjour Lionel.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, vous avez des questions concernant le Burkina Faso.
Absolument. Selon un rapport de Human Rights Watch, le massacre de Solenzo aurait été perpétré par des volontaires pour la défense de la patrie. Et je voudrais savoir sur quelles preuves s'appuie l'ONG pour accuser les VDP. Ah. Et quelles sont les raisons qui pourraient pousser la VDP à commettre un tel massacre.
Oui, selon Human Rights Watch, des dizaines de personnes ont été tuées dans la région de Solenzo, dans l'ouest du Burkina Faso. Les faits se sont déroulés il y a tout juste une semaine, les 10 et 11 mars. Bonjour Hilaria Allegrosi.
Bonjour à vous.
Chercheuse à la division Afrique de Human Rights Watch, vous avez vous-même enquêté sur le massacre de Solenzo et votre ONG affirme qu'au moins 58 personnes ont été tuées par des hommes appartenant à des groupes, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Expliquez-nous, Hilaria Allegrosi, comment vous avez travaillé, comment avez-vous enquêté ?
Oui, merci beaucoup. Nous avons examiné une dizaine de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux à partir du 11 mars et qui semblent effectivement impliquer les VDP, les supplétives des forces armées burkinabées, dans des graves exactions contre les civils dans la brousse de Solenzo, dans l'ouest du Burkina. Alors, les séquences vidéo que nous avons analysées montrent des dizaines de corps d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants. Nous avons dénombré 58 corps en total, mais les vidéos montrent aussi des dizaines d'autres personnes en situation d'évidente détresse, certains avec des blessures visibles, d'autres avec les mains, les pieds ligotés, mais surtout des individus armés de couteaux ou d'armes à feu sont visibles dans les vidéos. Certains se tiennent à côté des corps, d'autres marchent parmi les corps, d'autres donnent des instructions ou insultent les personnes assises qui sont visiblement détenues.
Et pour vous, excusez-moi Hilaria Allegrosi, ces hommes armés donc de fusils et de couteaux sont des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont, je le rappelle, des civils qui se sont portés, on va dire, volontaires pour aider l'armée à officiellement lutter contre les djihadistes.
Effectivement, ces individus armés visibles dans les vidéos portent des uniformes identifiables des VDP. Certains portent des t-shirts verts sur lesquels on peut lire « Groupe d'autodéfense de Maruna, Force rapide de Kuka ». Il s'agit de deux milices locales, donc de deux groupes des VDP dans les localités de Maruna et Kuka qui sont dans la province des Banois dont le chef-lieu est Solenzo. Donc les auteurs de ces exactions sont bien visibles. Et en plus de l'analyse des vidéos, nous avons aussi consulté des sources locales qui ont confirmé ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que vous avez pu recueillir des témoignages, si je comprends bien, directement.
Nous avons parlé avec des sources locales qui ont confirmé ce qui s'est passé dans les environs de Solenzo.
Ouais, Lionel, à Cotonou, nous demandait pour quelles raisons ces hommes ont-ils commis un tel massacre ?
Alors, déjà, il faut dire que d'après l'analyse des vidéos et les sources locales consultées, la plupart des victimes semblent appartenir à la communauté Peul et elle aura été ciblée par les VDP et les militaires dans une attaque de représailles contre cette communauté que le gouvernement accuse depuis longtemps de soutenir, de collaborer avec les combattants djihadistes. Et d'ailleurs, les propos tenus par les individus armés qui filment leurs propres exactions confirment effectivement cette stigmatisation, discrimination dont la communauté Peul est victime. Mmh. Il faut dire aussi que la zone de Solenzo a été le théâtre des multiples attaques djihadistes en 2024, des attaques qui ont visé tant les forces de sécurité que les civils, et que face à cette escalade de la violence de la part des groupes islamistes, les forces de sécurité burkinabées ont riposté de façon aussi violente et brutale en s'attaquant non seulement aux combattants djihadistes, mais aussi aux civils.
En tout cas, le gouvernement burkinabé a réagi à travers un communiqué diffusé samedi. Le gouvernement dénonce, je cite, « une vaste campagne de désinformation qui vise à discréditer nos vaillants combattants et à faire peur aux paisibles populations ». Fin de citation. Merci infiniment, Ilaria Allegrosi de l'ONG Human Rights Watch, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à Lionel en direct sur l'antenne de RFI. Il est 9h26 à Paris. Il nous reste 4 minutes, on a le temps d'accueillir cette fois Christian. Bonjour Christian.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Bienvenue et merci de votre fidélité et de votre patience. Je dis cela car hier vous étiez au standard, vous avez attendu une grande partie de l'émission et malheureusement on n'a pas pu vous prendre à l'antenne faute de temps. Vous êtes à Bukavu en République démocratique du Congo et vous avez des questions concernant votre pays, la RDC. On vous écoute.
Tout à fait, merci beaucoup Juan. Et merci de me donner la parole sur ce sujet qui fait le buzz dans la classe politique de mon pays. Mmh. Au fait, en RDC, le présidium de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi est passé de 6 à 40 membres. Alors on voulait savoir quels sont les objectifs de cette restructuration et pourquoi intervient-elle maintenant ?
Oui, l'Union sacrée, la coalition des partis politiques, a soutenu la candidature du président Félix Tshisekedi à sa réélection. Bonjour Itiel Batoumike.
Bonjour.
Analyste politique à l'Institut Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Expliquez-nous pourquoi le chef de l'État a-t-il décidé de restructurer le présidium de sa famille politique en élargissant le nombre de ses membres. Christian le disait à l'instant, ils sont passés de 6 à 40.
Je pense que le premier objectif, c'est de resserrer les rangs au sein de sa famille politique face à une montée de contestation de sa légitimité par une partie de l'opposition et de la société civile ces derniers jours suite à la crise sécuritaire dans l'est du pays. On a vu que le présidium de l'Union sacrée était devenu presque une équipe entre amis où les gens pouvaient se décider comment distribuer les postes entre les membres de leur famille, comme ça a été le cas lors de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Et je pense donc que le président de la République a voulu, outre resserrer les liens et mobiliser davantage dans son camp, essayer aussi d'amoindrir un tout petit peu le pouvoir de ses partenaires principaux qui constituaient le présidium initial.
Ouais. Vous dites mobiliser au sein de son camp. Il faut quand même rappeler, Itiel Batoumike, qu'il y a trois semaines maximum, le président Tshisekedi avait critiqué quand même le manque d'engagement de ses alliés. Il avait dénoncé, je cite, leur quasi-silence, notamment face à l'appel à la mobilisation contre la FCM23.
Justement, c'est aussi l'une des raisons, bien que ça soit très problématique, puisqu'on a vu parmi les personnes indexées indirectement que ces personnes s'étaient quand même mobilisées à leur manière et avec des positions peut-être contradictoires avec ce que lui pense de la manière dont il faut gérer la crise, comme l'honorable Vital Kamerhe qui s'est activé dans une diplomatie parlementaire et qui on peut le dire, essaie d'appuyer l'offensive diplomatique du gouvernement congolais. Ouais. Et donc, on voit que le président de la République a voulu aussi amoindrir les marges de manœuvre de ses partenaires, et c'est pour ça qu'il passe, en fait, à cette restriction qui, en réalité, fait du présidium un fourre-tout où on a un présidium aujourd'hui qui se confond avec la conférence des présidents de l'Union sacrée, qui est en réalité un organe qui, bien qu'il ne fonctionne pas, regroupe l'ensemble des président des partis et regroupements politiques.
Oui, effectivement. Merci en tout cas, Itiel Batoumike. Votre analyse, elle est pertinente. Christian disait que c'était le sujet qui faisait le buzz au sein de la classe politique en ce moment en RDC. En tout cas, on y a répondu ce matin.